Vous écoutez
RMC.
Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Raphaël Glucksmann, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, député européen, essayiste. Votre dernier livre, Lettre à la génération, qui va tout changer, aux éditions Alary. Est-ce que vous allez regarder ce soir le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur BFM ?
Je vais devoir zapper avec France 2 pour des raisons que vous connaissez.
Ouais.
Mais je pense que tout le monde va avoir un œil. Après, moi, j'aurais pas débattu avec Éric Zemmour. Ouais.
Vous l'avez fait, vous avez déjà.
Bien sûr, mais quand il était essayiste. Là, mon problème à moi, c'est que c'est très simple, c'est sa situation. En fait, s'il est candidat, que les autres candidats débattent avec lui, très bien. S'il est essayiste, qu'il ait un débat d'essayiste. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout participe à son buzz. Et c'est devenu le soleil autour duquel tous les astres morts de la politique française tournent.
Mais que cherche Jean-Luc Mélenchon, alors ?
Je sais pas, moi, là, inviter Jean-Luc Mélenchon,
à relancer sa campagne ?
Mais je pense que tout le monde aujourd'hui cherche à profiter du buzz Zemmour. Parce qu'en fait, il se passe quoi ? On est dans une morne pleine. Moi, je vois bien le réflexe des médias. C'est qu'on a l'impression d'un ennui. On sent une colère dans le pays. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive. Et moi, je l'ai vu chez vous, Éric Zemmour.
Oui.
C'est l'opposé absolu de ce que je pense, Éric Zemmour. Oui. Mais il y a quelque chose qu'il a et que les autres semblent avoir perdu, c'est la flamme, la foi. Quand il parle, on a l'impression qu'il est prêt à mourir. Il vous raconte une histoire, qui est l'histoire que moi je juge fausse, qui est celle de l'effacement de la France, de la fin de la France, de la mort de la France. Et face à ça, il y a une dimension tragique dans sa parole. Je la juge extrêmement dangereuse. Je juge que sa France est extrêmement rabougrie, qu'elle est petite, qu'elle est xénophobe, qu'elle est tout ce qu'on peut imaginer. Mais il a une foi. Et donc, quand dans un univers où personne n'a la foi, où on a l'impression que tout le monde débite des éléments de langage ultra entendus et qu'il n'y a plus de sincérité, ben vous avez quelqu'un qui arrive et qui met les pieds sur la table et donc tout tourne autour de lui. Mais c'est extrêmement dangereux ça, parce que vous savez ce qui se passe quand tout tourne autour d'un soleil, c'est qu'à la fin, le soleil avale les astres morts. Et c'est la leçon des États-Unis, c'est la leçon de Trump. C'est que tout le monde lui a tapé dessus, tout le monde a fait des coups sur sa vie, sur ses frasques, sur ses mensonges, sur absolument tout. Et à la fin, bah, c'est lui qui vient.
Mais Raphaël Glucksmann, vous écrivez « La gauche se retrouve nue lorsque revient l'orage ». Raphaël Glucksmann, les instituts de sondage se sont emparés de Zemmour, les médias suivent, les sondeurs rebondissent, les médias suivent encore, quoi, c'est une roulette qui tourne, je ne sais pas, moi.
Mais en fait,
c'est le dévoiement de la démocratie, ce système.
Mais moi, mon problème, c'est pas Zemmour. Mon problème, c'est nous.
Oui,
mon problème, c'est le vide.
C'est ce que vous écrivez dans l'Express.
Mon problème, c'est le vide qui lui fait face.
C'est le vide qui lui fait face.
Le vide qui lui fait face, le vide qui lui fait place. Mon problème, c'est que face à Zemmour, il n'y a pas de contre-récit. Ce qui fait la force de Zemmour, c'est précisément que les autres politiques, que même les intellos, n'arrivent pas à raconter la France, n'arrivent pas à projeter notre pays dans une histoire qui lui donne sens. Et c'est ça qui fait la force de Zemmour.
Mais dans l'histoire de France, Raphaël Glucksmann, il y en a eu des Zemmour. Il y en a eu des chantres d'une France.
Bien sûr. Et des meilleurs que lui.
Des meilleurs que lui, mais ils sont arrivés au pouvoir parfois.
Mais alors, le paradoxe en France, c'est que pour qu'ils arrivent au pouvoir, les Zemmour, il y a toujours eu besoin d'une intervention militaire extérieure. C'est les Cosaques russes en 1814 qui remettent le roi sur le trône. C'est les Panzers allemands en 1940. Oui. Mais jamais l'extrême droite n'a gagné la bataille culturelle sans intervention extérieure. Et pour la première fois. Pour la première fois, elle est en passe de le faire. Et c'est vraiment le paradoxe du moment qu'on vit aujourd'hui. Et c'est d'abord la responsabilité, je suis désolé, des élites politiques et médiatiques qui n'arrivent plus à raconter notre pays, qui n'arrivent plus à proposer un projet qui mobilise notre pays. Et donc, le seul récit français qui s'impose aujourd'hui, c'est celui d'Éric Zemmour. Mais le problème, c'est pas Éric Zemmour. Franchement, Maurras, Barrès, Demestre, ils étaient meilleurs que lui. Ils avaient plus de style, plus de charisme. Mais face à eux, il y avait des Zola, il y avait des Hugo, il y avait le sens de la République, il y avait l'impression que finalement, on pouvait tous participer à une aventure collective qui nous dépassait en se disant français, en étant citoyen français. Aujourd'hui, elle est où l'aventure collective qui donne sens à votre passeport, à votre carte d'identité ? Il n'y en a plus. Et c'est dans ce vide-là que s'impose Zemmour. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est s'interroger, nous, sur notre vide, sur le fait que la gauche au pouvoir, pendant des années, a complètement déçu, qu'elle n'a rien proposé comme transformation qui donne sens au fait d'être français. On doit s'interroger sur le fait que ça fait 40 ans qu'en fait nos élites ont capitulé devant le libre-échange, capitulé devant la désindustrialisation du pays, capitulé devant le fait que le délitement civique s'imposait partout. Et c'est ça qui doit nous interroger. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est avant de s'opposer à Zemmour ou de tourner autour de lui, interrogeons notre propre vide, interrogeons l'absence de sens qu'on donne à la politique.
Alors, comment faire ? Plus de république, plus de citoyenneté, plus comment faire ? Ce sont des mots.
Non, ce sont des mots.
Quels sont les actes ? Où sont les actes aujourd'hui ? Vous dites. Alors, votre livre est un acte. Je vais y revenir. Il y a de l'action dans ce livre. Je vais y revenir. Mais Raphaël Glucksmann, regardons la gauche aujourd'hui. Mm-hmm. Je vais parler un peu de politique. Mm-hmm. Elle est tellement divisée. Elle est tellement diverse. Elle est tellement partagée entre l'universalisme, entre d'autres. Mais où est-elle ? Que peut-elle faire ? Vous dites, il n'y a pas de réponse à Zemmour. C'est la gauche qui doit porter la réponse ?
Mais bien sûr, elle s'est toujours vécue à l'avant-garde de l'histoire républicaine et aujourd'hui, elle n'est plus à l'avant-garde de quoi que ce soit. Et
donc, elle est à l'avant-garde
qui...
de rien !
Mais non, c'est elle qui laisse le vide dans lequel Zemmour s'installe.
Oui.
Mais des trucs très simples. On est en train de devenir un pays et un continent de consommateurs. Aujourd'hui, notre rapport au monde, c'est la consommation. Donc le projet politique, si on veut retrouver un sens au fait d'être français, le projet politique, c'est de redevenir des producteurs. C'est donc de sortir du libre-échange. La gauche, elle a capitulé face au libre-échange pendant extrêmement longtemps. Elle a accepté, par exemple, moi j'étais à Clermont-Ferrand. Près de Clermont-Ferrand, il y a une usine qui s'appelle Luxfer, à Gerza. Eh bien, c'était la dernière usine d'Europe à produire des bouteilles d'oxygène en aluminium pour nos hôpitaux et pour nos sapeurs-pompiers. Eh bien, un actionnaire anglo-saxon a décidé de délocaliser la production en Turquie et aujourd'hui, plus personne ne produit cela en Europe. Et qui a réagi face à ça ? Personne. C'est comme si on avait accepté le fait que notre destin, c'était d'être des oies
gavées au Made in China. Qui porte ces messages-là à gauche ? Moi, je n'entends personne. Vous entendez quelqu'un ? Est-ce que vous allez vous engager dans la présidentielle ?
Ouais, j'espère bien, oui. Je vais porter ces thèmes-là.
Et comment ?
En étant
candidat ?
Non, je ne serai pas le 26e candidat de la gauche française.
D'accord.
Et d'ailleurs, je pense que dans la division de la gauche, généralement, on peut croire que quand on est faible, on se réunit, on se réchauffe, on se rassemble. Mais non, en fait, quand on est faible, on se divise. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a aucun qui croit réellement à la possibilité de la victoire. Et comme il n'y a plus de récit commun à gauche, eh bien, c'est le moment des chapelles. Tout le monde se compte, tout le monde se replie sur son petit pactole. On agit comme des rentiers de la politique. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Mais pour ça, il faut avoir des idées claires. Et la première idée, c'est que la gauche, elle doit renouer avec le travail. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une société où, en gros, le débat droite-gauche, c'est d'un côté, il y a la droite qui dit il faut absolument s'occuper de la dette et donc renier sur les prestations sociales. De l'autre côté, il y a la gauche qui dit qu'il va falloir gérer la pénurie de travail et assurer un matelas social. Ce que les gens ils veulent, c'est le travail. C'est travailler, c'est pouvoir produire chez eux.
Et du pouvoir d'achat.
Bien sûr. Et donc être bien payé quand ils travaillent. Et ça, c'est ça la gauche. La gauche, c'est l'histoire du travail. On doit faire un projet qui rend la possibilité à la France de devenir productrice. Parce que le producteur, c'est celui qui maîtrise son destin. Et à la fin, aujourd'hui, on se rend compte de quoi ? Eh bien, qu'on est consommateur de produits fabriqués en Chine et qu'on est consommateur de sécurité fabriquée aux États-Unis. Et donc, on n'est plus du tout indépendant. On est devenu des vassaux. On est devenu oisifs. Et ça, il faut sortir de ça. Et c'est ça le destin.
On est devenu oisifs.
Les élites politiques françaises ont permis la désindustrialisation de la France. Bien sûr. Elles ont renoncé. Et c'est ce renoncement-là, en fait, qui produit la crise identitaire dans laquelle on est. Il faut sortir du renoncement.
Vous dites, nous sommes l'un des peuples les plus pessimistes du monde. Au niveau des Somaliens, des Irakiens, des Afghans. Pourquoi ?
Mais le paradoxe, c'est que quand vous interrogez les Français sur leur bien-être personnel, ils se retrouvent dans la moyenne européenne. Par contre, quand on les interroge sur l'avenir de la France en tant que nation, sur leur avenir en tant que peuple, eh bien, ils sont au niveau des Irakiens et des Somaliens dans le pessimisme, sur le déclin de leur nation.
Oui.
Mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, on est sorti de l'histoire. On n'a plus du tout ce sens d'être une avant-garde. La France, c'est une nation extrêmement bizarre. C'est une nation qui s'est fondée sur la parole politique, sur l'idée qu'on avait un message à l'égard du monde et qu'on pouvait influer sur le cours des choses à l'échelle du monde. Et là, on se rend compte qu'en fait, on n'influe plus sur rien et qu'on est devenu des jouets. Des jouets du destin. Et on vit ce fatalisme-là comme une crise identitaire totale. Et il faut sortir de ce fatalisme. C'est possible. C'est des choses qui sont extrêmement concrètes.
Je vais revenir sur votre appel à la jeunesse. Dans votre livre, c'est un appel à la jeunesse, hein, c'est clair. Mais je voudrais qu'on regarde un peu ce qui se passe au niveau international et au niveau européen. Vous êtes député européen. Macron, Biden se sont parlé. Biden, c'est Trump en pire ou c'est le même ?
c'est pas pire que Trump, mais c'est la continuité.
C'est le même.
Mais oui, mais
en politique étrangère.
Tout le monde a voulu se rassurer.
Oui.
Après la défaite de Trump, en disant, c'est bon, c'est fini.
C'est fini.
Mais
oui.
En fait, ça avait déjà commencé sous Obama. Ça a continué sous Trump. Et ça se confirme avec Biden. Les Américains méprisent leurs alliés européens. Il faut se le dire. C'est plus leur problème. En fait, l'alliance transatlantique qu'ils ont façonnée pendant 70 ans, c'est plus leur problème.
Est-ce que nous répondons bien aux Américains? Est-ce que Emmanuel Macron, vous avez vu, est-ce que c'est une capitulation de sa part?
Mais on répond pas bien pour une raison très simple. C'est que la seule manière d'être pris au sérieux par les Américains, c'est d'affirmer notre autonomie à l'échelle européenne. La seule manière, je sais que c'est un serpent de mer, l'Europe
mais
de la
oui.
défense, mais oui, mais faut, et on n'a pas d'autre choix. Regardez, quand les Américains se retirent de Kaboul, ils ne préviennent même pas leurs alliés européens.
Oui.
Quand ils fusillent le contrat du siècle pour les sous-marins français avec l'Australie, ils n'ont aucun égard pour leurs alliés européens. Donc ils nous considèrent comme quantité négligeable. La seule manière qu'on a d'avoir une voix dans le monde, c'est de construire nos capacités de sécurité et de défense de manière autonome.
Oui, mais c'est l'Europe du renoncement. Nous vivons dans une Europe du renoncement.
Moi, je combats
renoncement. Vous parlez des Uyghurs. Je sais votre combat pour défendre les Ouïghours. La voix européenne, nul dans cette affaire. On n'a pas entendu. C'est de l'impuissance permanente. Je ne sais pas, moi. Il y a tant d'exemples.
Mais bien
tant
sûr.
D'exemples de
bien
ce
sûr.
Renoncement.
C'est
pas d'Europe de la défense, pas d'Europe sociale, rien. Pas de règles communes dans
sûr,
tant de
c'est
domaines.
Le renoncement, moi, je lutte dans les institutions européennes contre ça et je me prends des portes dans la gueule en permanence. Parce qu'en fait, il y a cette culture de l'impuissance. Il y a cette idée que de toute façon, l'Europe est sortie de l'histoire et qu'elle est sur le déclin. Mais moi, ce que j'aimerais rappeler aux gens, c'est nous sommes encore le premier marché du monde, la première puissance commerciale du monde. Et donc, si on veut devenir puissant, eh bien, on le peut. Mais pour ça, il faut une décision politique. Regardez, par exemple, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, elle vient d'annoncer le bannissement des importations des produits de l'esclavage, en particulier des produits qui sont fabriqués par les esclaves ouïghours sur les chaînes de production des grandes multinationales en Chine. Vous avez des multinationales, Adidas, vous aviez Adidas, maintenant, grâce à l'action des jeunes français, ça a changé, mais vous avez Zara, vous avez Nike, vous avez toutes ces multinationales qui ont des esclaves qui fabriquent leurs produits. Von der Leyen vient d'annoncer que ces produits allaient être bannis du marché européen. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce que des centaines de milliers de jeunes français, depuis 2 ans, se mobilisent, harcèlent ces grandes multinationales, harcèlent les dirigeants européens et français. Et cette idée que moi j'ai proposée à la Commission européenne il y a déjà 1 an et demi et qui était jugée mais complètement irréaliste, elle s'est imposée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mobilisation, parce que des jeunes sur les réseaux sociaux, ces jeunes qu'on dit apathiques, qu'on dit narcissiques, qu'on dit déconnectés du monde, eh bien, ont imposé qu'on s'occupe des esclaves ouïghours et ont imposé cette thématique du bannissement des produits de l'esclavage. Et donc, c'est possible de faire bouger les lignes, c'est possible d'agir. La seule chose, c'est qu'il faut exercer le peu de pouvoir que chacun d'entre nous en a. Et c'est ça le sens du livre que j'ai écrit, c'est de montrer qu'on peut avoir son mot à dire, qu'on peut influer sur le cours des choses à condition de se mobiliser. Et l'Europe, quand elle prend des actes comme ça, eh bien elle existe et elle protège ses propres producteurs en faisant ça. Comment est-ce que vous voulez expliquer à un producteur français qu'il est mis en concurrence avec un producteur chinois qui en réalité repose sur l'esclavage et les camps de concentration? Il peut pas y avoir de concurrence.
Enfin, écoutez, cette Europe, Monsieur Orban reçoit Éric Zemmour. D'un côté, vous avez Angela Merkel qui quitte le pouvoir. Cette Europe, elle n'existe pas politiquement, elle n'existe pas.
Bien sûr qu'elle n'existe pas politiquement, mais c'est
elle n'existe pas.
Alors dans ce cas-là,
moi je suis pas.
Dans ce cas-là, on renonce.
Non, mais il ne s'agit pas de renoncer. C'est jamais que faire.
Il faut se battre pour qu'elle existe. Il faut se battre pour qu'elle existe. Moi, c'est trop facile d'arriver. Je peux venir chez vous et dire nos passaran Zemmour, nos passaran Orban. C'est vraiment des. Mais qu'est-ce qu'on propose? Sur quoi ils grandissent? Sur quoi Salvini grandit? Sur quoi Zemmour grandit? Sur quoi Orban grandit? Sur notre impuissance, sur le fait que l'Europe, ça fait 40 ans qu'elle est le cheval de Troie de la globalisation, qu'elle a permis la désindustrialisation du continent, qu'elle a permis...
Mais ils grandissent aussi parce que l'Europe a accueilli beaucoup... Je vais vous choquer. Ils grandissent aussi parce que l'Europe a accueilli beaucoup d'immigrés.
Non,
trop, disent-ils. Trop.
Trop, disent-ils. Et alors, qu'est-ce que l'Europe a fait? L'Europe,
elle a refusé aussi parce qu'il y a des Français, des Européens qui les écoutent et qui partagent leurs opinions.
Bien sûr. Mais il faut assumer d'avoir une politique migratoire. Assumer d'avoir une politique de l'accueil.
Et
aujourd'hui, justement, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on est dans le non-choix. Donc, évidemment, on est dans le non-choix. Ça ressemble à un chaos. Mais honnêtement, les chiffres, soyons juste concrets, les chiffres d'arrivée à l'échelle européenne. C'est pas du tout ingérable, faut arrêter. C'est parce qu'on refuse d'avoir une politique, on refuse d'assumer des choix, et donc ça crée des abcès de fixation ingérables. Mais en réalité, ça serait tout à fait possible d'accueillir les réfugiés ou les exilés qui sont dans les îles grecques. Moi, j'étais en Grèce hier encore. Et ça devient, en Grèce, un énorme sujet. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas de politique européenne. Parce que c'est pas géré.
Mais comment voulez-vous conduire une politique européenne quand vous avez d'un côté M. Sanchez en Espagne et de l'autre M. Orban en Hongrie ? Mais c'est... Ils sont à l'opposé.
Mais c'est justement tout l'enjeu.
Comment faites-vous ?
Il y a la possibilité, à l'échelle européenne, de définir des priorités communes. Et face à M. Orban, il faut entrer dans un rapport de force face à M. Orban. C'est tout à fait possible. Vous savez, M. Orban, il profite des aides européennes. En permanence. Sa famille s'enrichit
avec les aides.
Avec les aides européennes. Bien, s'il ne joue pas le jeu ni de l'état de droit, ni des politiques communes, il faut lui couper les aides. Oui, il faut être pris au sérieux. Moi, ce que je dis, c'est simplement une chose. Arrêtons d'être faibles. Arrêtons d'être faibles. On a des intérêts à long terme communs en Europe. On a aussi des principes communs. Il faut les faire respecter.
Vous avez été 8 sur 10. Je vous lis, c'est votre conclusion. Vous avez été vous adresser aux jeunes. Vous avez été 8 sur 10 à vous abstenir lors des élections régionales de juin 2021. C'est un Tchernobyl démocratique. Je comprends votre frustration et votre colère. Elles peuvent vous conduire soit à tourner la tête avec dégoût, soit à foncer dans le tas. Alors foncez. C'est un appel aux jeunes.
Mais moi, ce que je dis, c'est... La jeunesse de France, elle est mobilisée. Il faut arrêter avec ce discours sur les jeunes sont apathiques. Moi, je veux dire à vos enfants sont actifs. C'est grâce à eux qu'on parle du climat. C'est grâce à eux que les Ouïghours sont devenus un sujet important en Europe. C'est grâce à eux qu'on va changer nos politiques commerciales. C'est grâce à leur rapport au monde qu'ils ont imposé que finalement on change notre rapport à la production et à la consommation. Il faut être fier de ces jeunes-là. Et simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de débouché politique à leur engagement. Et tout ce que je veux faire, mon seul pari, ma seule raison d'être en politique, c'est justement de faire en sorte que cette énergie-là, qui manque tellement à notre cité, trouve un débouché. On ne peut pas construire une cité sans jeunes. On est en train de construire une cité sans jeunes, où finalement, on est dirigé par des gens qui ont accepté le déclin. Quand on a 20 ans, on n'accepte pas le déclin. Quand on a 20 ans, on s'indigne face à l'injustice qu'on rencontre. Quand on a 20 ans, on a envie d'être acteur de son destin. On n'a pas envie d'être simplement un hôtelier pour touristes qataris ou chinois plus tard et vivre dans un Disneyland. Quand on a 20 ans, on a envie d'être maître de son destin. Et ce que j'essaye de raconter dans ce livre, c'est que précisément, ils ont pris en main leur destin. Il n'y a pas de débouché politique à ça encore,
mais ils ne votent pas.
Il y a des actions en permanence. Eh bien non, c'est ça l'enjeu. C'est comment la classe politique s'est complètement déconnectée d'une jeunesse qui pourtant se mobilise. C'est la faiblesse des partis politiques. C'est d'abord la faiblesse de la gauche. C'est le drame de la démocratie française que il y a une société qui est ultra énergique, qui est innovante, qui est inventive, qui est mobilisée, et ça ne se traduit pas politiquement. Et donc on a un problème de structure là. Il y a un problème de discours. Enfin, je veux dire, honnêtement, ça vous donne envie ? Enfin, vous les recevez tous les matins. Ça vous donne envie ? Vous pensez que vous avez 20 ans, vous allez écouter des gens qui débitent des éléments de langage qu'on a déjà entendu 1000 fois, et vous allez prendre votre carte et dire c'est super, c'est la révolution. Non. Enfin, il y a quelque chose là qui est un astre finissant dans la classe politique française aujourd'hui. Et c'est ce qui permet justement à des paroles extrémistes, eh bien, de mobiliser et de s'imposer. Parce que c'est finalement les seuls qui semblent avoir quelque chose de sincère.
Seuls les extrêmes sont entendus aujourd'hui.
Mais parce que c'est les seuls qui semblent avoir une histoire à raconter, qui semblent sincères, qui semblent être capables de crever pour ce qu'ils disent. Je veux dire, ils ont une dimension tragique, une aura qui est complètement différente. On a l'impression que face à ça, on a des communicants, des profs de Sciences Po. Et ça ne fonctionnera jamais. À la passion, vous devez opposer la passion. Il faut à nouveau croire que, eh bien, la République, ça veut dire la transformation de la vie.
Dites-moi,
que vous pouvez.
Ouais. Mais mettez-vous à la place d'un jeune. Pour qui allez voter ?
Ben, c'est ce que je dis.
Pour qui ?
Franchement.
Ben oui. Vous savez déjà pour qui vous irez voter ?
Non,
vous ne savez pas.
Je sais pas. Ouais, je sais pas.
Et vous ne savez pas.
Et la pré-campagne. Oui. Et la pré-campagne, je décidais de pas prendre parti parce que
oui,
je
suis pas d'accord. Mais est-ce que vous savez pour qui? Je demanderai pas pour qui, mais est-ce que vous savez déjà pour qui?
Je sais pas.
Parce que vous savez pas. Comme la majorité des Français, beaucoup de jeunes.
Bien sûr, je ne sais pas. Et c'est tout le problème. Il n'y a pas on a voulu faire de la politique. Un débat permanent entre Juppé et Jospin, en gros, entre deux façons de gérer. Mais c'est pas ça la politique, et surtout pas dans notre pays. C'est la politique, c'est transformer. La politique, c'est quelque chose qui doit nous dépasser, qui doit nous faire participer à une aventure collective. On a l'impression qu'on transforme l'existence ou finalement on redresse notre nation, on redresse notre continent. On a notre mot à dire sur le. Vous savez, le grand récit, c'est la transformation écologique. Enfin, ça semble évident, mais pourtant on n'arrive même pas à le formuler dans la classe politique de manière épique. Vous voulez redonner une fierté aux Français, mais faites de la France l'avant-garde de la transformation écologique et montrer que la transformation écologique, c'est un projet industriel pour notre pays.
Les deux candidats écologistes vous donnent envie?
Rapatrier la production.
Les deux finalistes vous donnent envie?
Moi, j'ai vu les débats.
Oui.
Honnêtement, c'était plutôt de bonne tenue. Vous pouvez pas dire le contraire, mais c'est vrai qu'il y a pas encore ce récit-là. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on m'explique, très simplement, qu'on m'explique que la transformation écologique, ça va redonner du travail aux gens. Que en réalité,
quand vous rapatriez
la production, et finalement, je vais vous dire un paradoxe total, et ça, aucun écolo pour l'instant ne l'assume, c'est que vous voulez lutter contre le dérèglement climatique, vous devez rapatrier la production, c'est-à-dire la pollution chez nous. En fait, ce qu'il faut faire,
c'est la pollution.
Bien sûr, c'est arrêter l'externalisation de la pollution. Aujourd'hui, on dit la Chine pollue, mais la vérité, c'est qu'on a déléguer la production à la Chine et qu'ils polluent pour produire des biens qu'on consomme nous.
Eh bien, vous me donnez une idée pour demain matin, puisque demain matin, nous aurons ici même les deux candidats, les deux finalistes chez les écologistes pour savoir qui sera candidat à la présidence de la République. Merci, Raphaël Glucksmann.
Merci, et la France n'est pas morte.
Merci, Raphaël Glucksmann, 8h54.